52. La sagesse et la conviction de Trenmore ne pouvaient rien sur la blessure profonde qui saignait au cœur du jeune poète. Lui aussi avait sucé en s'ouvrant à la vie le lait empoisonné, le scepticisme dont cette génération n'est abreuvée. Aveugle et présomptueux, il s'était cru au sortir de l'adolescence investi d'une puissance céleste et parce que son intelligence savait donner des formes charmantes à toutes ses impressions, il s'était flatté de traverser la vie sans combat et sans chute. Il n'avait pas compris, il n'avait pas pu comprendre Lélia, et là était la cause de tous les revers où il devait se laisser entraîner. Le ciel, qui ne les avait pas faits l'un pour l'autre, avait donné à Lélia trop d'orgueil pour se révéler, à Sténio trop d'amour-propre pour la deviner. Il n'avait pas voulu entendre qu'il fallait mériter le dévouement d'une telle femme par de nobles actions, par de pieux sacrifices et surtout par la patience qui est la plus grande preuve d'estime, le plus honorable hommage auquel est droit une âme fière. Sténio n'avait pu se refuser à reconnaître la supériorité de Lélia entre toutes les femmes qu'il avait rencontrées, mais il n'avait jamais réfléchi à l'égalité de l'homme et de la femme dans les desseins de Dieu. Et comme il voyait seulement l'état des jours présents, comme il ne pouvait admettre que la femme eût déjà un droit suffisant à cette égalité sociale, il ne voulait pas admettre non plus que quelques femmes, nobles et douloureuses exceptions, eussent un droit d'exception au sein de la société existante. Peut-être l'eût-il compris si Lélia eût pu le lui expliquer. Mais Lélia ne le pouvait pas. Elle n'avait pas trouvé le mot de sa propre destinée. Malgré tout son orgueil, elle avait un fond de modestie naïve qui l'empêchait de comprendre la nécessité de son isolement. Quand même, elle eut assez de foi en elle-même pour se dire qu'elle avait mission de marcher seule et de n'obéir à personne. Le cri d'indignation et de haine soulevé autour d'elle par cette prétention hardie eût peut-être glacé son courage. C'est ce qui lui arriva lorsque Sténio, ne voulant pas comprendre la sublime pudeur de ce sentiment d'indépendance à la fois héroïque et timide, et prenant la réserve de Lélia pour du mépris, l'abandonna en la maudissant. Alors Lélia s'applaudit de n'avoir pas dévoilé le mystère de son orgueil et de n'avoir pas livré à la risée d'un enfant l'instinct prophétique qui fermentait dans son sein. Elle se replia sur elle-même et chercha dans son orgueil une légitime mais amère consolation. Profondément blessée de n'avoir pas été devinée et voyant par la conduite ultérieure de Sténio qu'il ne comprenait de l'amour que le plaisir facile de la possession, elle prononça à son tour un anathème irrévocable sur l'orgueil insensé de l'homme et prit le parti de se suicider socialement en se vouant à un célibat éternel. Trenmore lui-même ne pouvait pas bien comprendre l'infortune sans remède de cette femme, née 100 ans trop tôt peut-être. Des préoccupations personnelles non moins graves avaient rempli sa vie. Comme Lélia avait été poussée à la révélation de l'avenir de la femme par le sentiment de son malheur individuel, Trenmore avait été poussé à la révélation de l'avenir de l'homme par sa propre misère. Ses regards embrassaient une partie du vaste horizon. Il ne pouvait l'embrasser tout entier. Il disait souvent à Lélia, et non sans raison, qu'avant d'affranchir la femme, il fallait songer à affranchir l'homme, que des esclaves ne pouvaient délivrer et réhabiliter des esclaves, qu'il était impossible de faire comprendre la dignité d'autrui à qui ne comprenait pas la sienne propre. Trenmore travaillait avec espoir. Ses fautes passées lui donnaient l'humble patience et la foi persévérante du martyr. Lélia, innocente des maux qu'elle subissait, ne pouvait avoir la même abnégation. Victime désolée, elle pleurait comme la fille de Jephthé, sa jeunesse, sa beauté et son amour, sacrifiés à un vœu barbare, à une force insensée. Quand la nuit fut descendue sur la vallée, Trenmore guida Sthénio à travers les ravins jusqu'à la route qui devait le ramener à la ville. Chemin faisant, il essaya de sonder de nouveau sa blessure et de la soulager en y versant le baume de l'espérance. Il avait fait promettre à Lélia qu'elle accorderait, par vertu, ce qu'elle ne pouvait plus lui accorder par inclination, pardon ou repentir, récompense à l'expiation. Il s'efforça donc de faire comprendre à Sthénio qu'il pouvait encore mériter et obtenir celle qu'il avait tant aimée. Mais il était trop tard, malheureusement, pour Sthénio. Trenmore, enchaîné au devoir de sa mission austère, n'avait pu l'arracher assez tôt à l'entraînement funeste des passions brutales. Eût-il pu le faire à temps, Sthénio était peut-être condamné à retomber dans cet abîme. Il était le fils de son siècle. Aucun principe arrêté, aucune foi profonde n'avait pu pénétrer son âme. Fleur épanouie au souffle des vents capricieux, elle s'était tournée à l'Orient et à l'Occident, suivant la brise, cherchant partout le soleil et la vie, incapable de résister au froid ni de lutter contre l'orage. Avide de l'idéal, mais n'en connaissant pas les chemins, Sthénio avait aspiré la poésie et s'était imaginé avoir une religion, une morale, une philosophie. Il ne s'était pas dit que la poésie n'est qu'une forme, une expression de la vie en nous, et que là où elle n'exprime ni vœu ni conviction, elle n'est qu'un ornement frivole, un instrument sonore. Il avait longtemps plié le genou devant les autels du Christ, parce qu'il trouvait du charme dans les rites institués par ses pères. Mais quand les boudoirs lui furent ouverts, les parfums voluptueux du luxe lui firent oublier l'encens du lieu saint et la beauté profane de Laïs lui parut mériter son hommage et ses vers tout aussi bien que la beauté idéale de Marie. L'intelligence de Lélia avait donné à l'enthousiasme de Sthénio le caractère de la passion. Et alors, dans un enivrement de vanité, il flétrissait de ses mépris exagérés les hommes infortunés qui cherchent à s'étourdir dans le vice. Mais quand il vit cette intelligence mesurer la sienne avec plus de tendresse que d'enthousiasme et refuser de s'y soumettre aveuglément, il ne lui resta pour Lélia que de la haine, et il se jeta dans le vice avec plus de facilité que tous ceux qui l'avaient blâmé. Trenmore, voyant avec quelle amertume il repoussait le souvenir de Lélia, fut effrayé du ravage que l'impiété avait fait en lui, car l'amour est le dernier reflet de la vie divine qui s'éteigne en nous. La pensée de toute la vie de Trenmore était une pensée d'expiation et de réhabilitation pour la race humaine, trop fort pour croire à la sincérité du désespoir ou à la réalité de l'épuisement, il s'indignait profondément de ces manifestations. Il accusait le siècle d'avoir encouragé cette mode impie et regardait comme criminel envers l'humanité ceux qui proclamaient le découragement et s'abandonnaient à l'incrédulité. « Honte et misère !» s'écria-t-il, transporté à la fin d'une colère généreuse. « Est-ce un de nos frères? Est-ce un martyr de la vérité? Est-ce un serviteur de la sainte cause que j'entends parler ainsi? Comment parleront donc nos persécuteurs et nos bourreaux si nous abjurons toute idée de grandeur, tout espoir de salut? Ô jeunesse, que je me plaisais à nommer sainte, toi que je croyais fille de la Providence et mère de la liberté, ne sais-tu donc verser ton sang sur une arène, comme faisaient les lutteurs aux Jeux Olympiques, pour remporter une couronne inutile et recueillir de vains applaudissements? N'as-tu donc pour vertu que l'insouciance de la vie, pour courage que l'audace naturelle à la force? N'es-tu bonne qu'à fournir d'intrépides soldats? Ne produiras-tu pas des hommes persévérants et vraiment forts? Auras-tu traversé la nuit des temps comme un météore rapide, et la postérité écrira-t-elle sur ta tombe? Ils surent mourir, ils n'auraient pas su vivre. N'es-tu donc un instrument aveugle de la destinée, et ne comprends-tu ni les causes ni les fins de ton œuvre? Et quoi, Sthénio? Tu as pu accomplir une grande action, et tu n'es plus capable d'une grande pensée ou d'un grand sentiment? Tu ne crois à rien, et tu as pu faire quelque chose. Et tous ces dangers affrontés, et toutes ces souffrances acceptées, et tout ce sang versé, celui de tes frères, le tien propre, tout cela est sans moralité, sans enseignement pour toi. Oh, alors je le comprends. Tu dois tout rejeter, tout nier, tout mépriser, tout flétrir. Notre œuvre n'est qu'une tentative avortée. Nos frères immolés ne sont que les victimes de l'aveugle fatalité. Leur sang a coulé sur la terre aride, et nous n'avons plus qu'à nous enivrer chaque soir pour endormir des souvenirs poignants et chasser un rêve affreux. Valmarina, dit Sthénio d'un air sombre, vous avez tort de me faire des reproches. Vous m'avez imposé un secret, je l'ai gardé. Vous m'avez demandé un serment, je l'ai prêté. Vous m'avez commandé une action, je l'ai accomplie. Qu'avez-vous de plus à me demander? Vous convenez que je suis fidèle à ma parole, que je sais me battre, que je ne recule pas devant les fatigues et les dangers. Que voulez-vous davantage de moi? Vous savez que je vous ai donné le droit de m'employer à votre œuvre autant que vous le jugerez convenable, que, d'un bout du monde à l'autre, je suis soumis à votre vouloir et prêt à marcher à votre voie. Vous avez en moi un bon serviteur, servez-vous-en, et que l'ardeur du prosélytisme ne vous égare pas jusqu'à vouloir en faire un disciple. Quel droit avez-vous de m'imposer vos croyances et votre espoir? Ai-je cherché vos prédicateurs? Ai-je brigué la faveur d'être admis à la table ronde de vos chevaliers? Me suis-je présenté à vous comme un héros, comme un libérateur, comme un adepte seulement? Non, je vous ai dit que je ne croyais plus à rien, et vous m'avez répondu « Il n'importe, suis-moi et agis. Vous avez fait un appel à mon honneur, à mon courage, et je n'ai pas dû reculer. Je n'ai pas voulu mériter la quenouille que vous envoyez aux poltrons ou aux indifférents, car vous ne souffrez pas l'indifférence. Vous la traduisez à votre barre redoutable et vous la condamnez à être réputée lâcheté. Je n'ai pas eu assez de philosophie pour accepter cet arrêt. J'ai vu marcher toute la jeunesse, tous les hommes braves de mon pays. Je me suis levé, tout malade et brisé que j'étais. Je me suis traîné sur une arène ensanglantée. Et quel spectacle m'avez-vous montré, grand Dieu, pour me guérir et me consoler, pour m'enseigner la confiance et la foi à vos théories? L'élite des hommes de mon temps moissonnée par la vengeance brutale du plus fort, les cachots ouvrant leur gueule immonde pour engloutir ceux que le canon ou le glaive n'avaient pu atteindre, les arrêts de proscription poursuivant tout ce qui était sympathique à notre entreprise, partant tous les dévouements paralysés, toutes les intelligences étouffées, tous les courages brisés, toutes les volontés écrasées. Et vous appelez cela une œuvre régénératrice, un salutaire enseignement, une semence jetée sur la terre promise? Moi, j'ai vu une œuvre de mort, un exemple d'impuissance, et les derniers grains d'une semence précieuse jetés au vent sur les rochers parmi les épines. Et vous me faites un crime d'être abattu et dégoûté le lendemain de cette catastrophe. Vous ne voulez pas que je pleure les victimes et que je m'asseye consterné au bord de la fosse où je voudrais être étendu et dormir de l'éternel sommeil, à côté du pâle Edméo. « Tu n'es pas digne de prononcer ce nom !» s'écria Trenmore, dont le visage fut à l'instant inondé de larmes. « Malheureux déclamateur, tu le prononces avec des yeux secs. Tu ne songes qu'à justifier ton doute impie, et tu ne vois dans ce cadavre étendu dans le cercueil qu'un objet d'horreur au souvenir duquel tu voudrais échapper. Ah ! Tu n'as pas compris cette âme sublime, puisque tu veux la déshériter de son immortel héritage. Et tu n'as pas compris non plus son rôle angélique sur la terre, puisque tu doutes des fruits qu'un tel exemple doit produire. Ô justice de Dieu, n'écoute pas ces blasphèmes. Ô habitant du ciel, ô mon fils Edméo, tu es heureux, toi, de ne pas les entendre. » Palmarina se laissa tomber sur la terre et, ramenée au souvenir d'Edméo de la manière la plus douloureuse, il croisa ses mains avec force sur sa large poitrine pour y refouler ses sanglots. On eût dit qu'il voulait retenir dans son cœur sa foi ébranlée par le blasphème. Il soutenait une agonie terrible, comme le Christ à l'heure du calice empoisonné. Sténio pleurait aussi, car il était bon et sensible. Mais il attachait à ses larmes plus de prix qu'elles ne valaient. C'étaient des larmes de poète qui coulaient aisément et qui lavaient mollement la trace de ses douleurs. Il ne comprenait pas les larmes de cet homme fort et généreux qui ne pouvait pas le soulager et qui retombait sur le cœur comme une pluie de feu. Il ne savait pas que les douleurs combattues et comprimées de la force sont plus vives et plus dévorantes que celles auxquelles on donne un libre cours. La destinée de Sténio était de nier ce qu'il ne connaissait pas. Il crut que Trenmore rougissait d'un instant de pitié et que, dans son héroïsme farouche, il immolait le souvenir d'Edméo dans son cœur comme il avait immolé sa vie dans le combat. Il s'éloigna, triste, mécontent, malheureux aussi, car il avait de nobles instincts et son âme était faite pour de nobles croyances. Il entra vers minuit dans le salon de Pulcheri. Elle était seule devant sa toilette, rêveuse et mélancolique. En voyant Sténio, qu'elle avait cru mort, apparaître derrière elle dans sa glace, elle crut voir un spectre, poussa un cri perçant et tomba évanouie sur le parquet. « Digne accueil !» dit Sténio. Et, se jetant sur un sofa, sans songer à la relever, il s'endormit accablé de fatigue, tandis que les femmes de Pulcheri s'empressaient à la secourir.